Vous écoutez On lit pour vous.
Nouveau vent d'espoir pour la sclérose en plaques. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 mars 2025 dans la presse. Depuis quelques années, l'immunothérapie CAR-T révolutionne la lutte contre certains cancers. Des chercheurs veulent maintenant l'utiliser contre les maladies auto-immunes. Au récent congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences à Boston, un chercheur a même avancé qu'elle pourrait vaincre la sclérose en plaques. Redémarrer le système immunitaire. Une femme d'affaires qui souffrait de sclérose en plaques depuis plus de 15 ans envisageait de prendre une retraite prématurée. Elle est maintenant PDG d'une grande entreprise connue. Un quinquagénaire atteint de sclérose en plaques envisageait d'aller vivre dans un CHSLD. Il a pu rester avec sa famille, travailler et s'occuper de ses enfants. Jeffrey Dunn ne manquait pas de superlatifs pour décrire les résultats encourageants de l'immunothérapie CAR-T qu'il a administrée à 4 patients souffrant de sclérose en plaques. Présenté pour la première fois à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAAS, en février dernier, ces résultats permettent d'envisager que l'on puisse éradiquer la sclérose en plaques comme on l'a fait pour la poliomyélite, selon le neurologue de l'Université Stanford. Jamais des résultats du genre n'avaient été rapportés, indique le Dr. Dunn, au sujet de la disparition de protéines appelées bandes oligoclonales. Ces protéines sont produites quand il y a de l'inflammation dans le système nerveux central et sont l'un des principaux signes de sclérose en plaques. La thérapie CAR-T, acronyme anglais de récepteur antigénique chimérique, élimine avec des lymphocytes T génétiquement modifiés, des lymphocytes B anormaux, responsables des maladies auto-immunes. De plus en plus utilisée en oncologie, cette approche a été décrite comme l'une des avancées de l'année 2024 par l'AAAS, à la suite d'une étude allemande publiée dans le New England Journal of Medicine, qui a montré des résultats encourageants pour 15 patients atteints de 3 maladies auto-immunes, dont le lupus. Evelyne Vinet, rhumatologue à l'Institut de recherche du CUSUM, cherche à lancer un essai clinique CAR-T pour le lupus au CUSUM et qualifie la thérapie de révolution. Elle était récemment à un important congrès de rhumatologie où une présentation des chercheurs allemands a eu lieu à guichet fermé. Certains effets secondaires toxiques de la thérapie CAR-T observés en oncologie n'ont pas émergé chez les patients atteints de maladies auto-immunes. Et dans certains cas, les lymphocytes B se sont régénérés sans retrouver leur propension anormale à attaquer le corps du patient. Dans d'autres cas, les patients se sont retrouvés sans lymphocytes B, donc plus vulnérables aux infections. Un sceptique montréalais. Spécialiste de la sclérose en plaques, le neurologue Alexandre Pratt de l'Université de Montréal exprime son scepticisme devant l'enthousiasme pour l'immunothérapie CAR-T. Je comprends que l'élimination des lymphocytes B pathogéniques soit considérée comme prometteuse et bénéfique avec l'utilisation de la thérapie CAR-T. Et j'admets qu'il y aura une certaine repopulation de nouveaux lymphocytes B naïfs qui pourront, peut-être, assurer une protection contre les virus et les bactéries. Mais l'histoire nous a déjà appris que certaines manipulations drastiques du système immunitaire ont entraîné de véritables catastrophes. Nous devons donc rester prudents. Le Dr Pratt cite les cas du daclizumab en 2012 et de l'anti-TNF en 2001. Dans le premier cas, Ce médicament contre la sclérose en plaques avait été retiré du marché après quelques années à cause de 12 graves inflammations du cerveau qui avaient conduit à 3 décès. Dans le second, ce médicament contre l'arthrite pourrait augmenter le risque de certains cancers. Toxicité. Au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hématologue Jean-Sébastien Delisle utilise la thérapie CAR-T en oncologie. Les résultats pour les maladies auto-immunes sont impressionnants, estime-t-il. L'utilisation des cellules CAR contre les maladies auto-immunes s'imposera rapidement, selon lui. Nous avions tous peur que les effets secondaires soient aussi sérieux que chez les patients souffrant de cancer du sang, mais finalement, ça se passe plutôt bien. Pourquoi cette toxicité est-elle absente? On ne sait pas exactement, mais il y a plusieurs hypothèses, répond Jean-Sébastien Delisle. Il se peut qu'en traitant un cancer, on tue plus de lymphocytes B d'un coup. Ou alors qu'il y ait des signaux inflammatoires différents avec le cancer. Il se peut aussi que ce soit à cause des chimiothérapies antérieures. Une autre question qu'il faudra résoudre avant que la thérapie CAR-T s'impose dans le traitement des maladies auto-immunes concerne la régénération ou non de lymphocytes B normaux. Si ces lymphocytes B ne se régénèrent pas, le patient a besoin d'infusions d'anticorps tous les mois et mène une vie à peu près normale, selon le docteur Delisle. Ça va prendre encore quelques années avant qu'on ait les réponses à toutes ces questions, précise le chercheur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les anticorps monoclonaux. Selon le Dr Pratt, le coût de l'immunothérapie CAR-T, soit plusieurs centaines de milliers de dollars, est prohibitif. Pour les maladies auto-immunes, d'importants progrès ont été réalisés depuis une dizaine d'années avec des anticorps monoclonaux. Il s'agit de médicaments qui ciblent des molécules anormales responsables des maladies auto-immunes, dont les lymphocytes B problématiques. Ils doivent être pris régulièrement, parfois tous les mois, mais leur coût est 10 fois moins élevé que la thérapie CAR-T. Vous côtoyez probablement, sans le savoir, des gens qui ont la sclérose en plaques, dit le docteur Pratt. Quand j'ai commencé en sclérose en plaques, il y avait plein de patients en fauteuil roulant dans la salle d'attente. Maintenant, c'est très rare. C'est l'un des domaines en médecine qui ont le plus évolué dans les derniers temps. Depuis l'approbation des premiers anticorps monoclonaux pour la sclérose en plaques, il y a 20 ans, une quinzaine ont été approuvés. Le prix de l'immunothérapie CAR-T la limitera probablement aux cas pour lesquels les médicaments moins chers ne fonctionnent pas, convient le docteur Delisle. Si les incertitudes sur les effets à long terme de la thérapie CAR-T se règlent de façon positive, elle pourrait devenir la première option pour les maladies auto-immunes, estime le docteur Delisle. Imaginez une jeune femme avec une maladie auto-immune qui l'empêche de travailler à son plein potentiel. Si on peut éliminer la maladie d'un coup, même si ça coûte des centaines de milliers de dollars, ça peut valoir la peine pour la société. Et il est fort possible qu'on réussisse à diminuer ces coûts. Le docteur Delisle cite l'exemple d'une thérapie génique traitant l'anémie falciforme, qui coûte entre 1 et 3 millions de dollars, mais qui, dans certains cas, si elle est donnée à un enfant, coûte moins cher que les frais de santé subséquents et l'impossibilité de contribuer à la société. En savoir plus, source Sénat du Canada. 2 millions, nombre de cas de maladies auto-immunes au Canada. Source Université Columbia. 5. Nombre d'essais cliniques CAR-T pour des maladies auto-immunes en 2022 dans le monde. 67. Nombre d'essais cliniques CAR-T pour des maladies auto-immunes en 2024 dans le monde. 20 millions. Nombre de cas de maladies auto-immunes aux États-Unis. Plus de 100 milliards US. coûts de santé liés aux maladies auto-immunes aux États-Unis. C'était « Nouveau vent d'espoir pour la sclérose en plaques », un texte de Mathieu Perrault, paru le 2 mars 2025 dans La Presse.
Les ressources minières du Groenland sont convoitées, mais difficiles à exploiter. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir. Le potentiel minier du Groenland est connu depuis longtemps, mais depuis que Donald Trump a réitéré son intérêt pour l'île arctique, son sous-sol a été projeté au cœur des convoitises. La difficulté à trouver des investisseurs, jumelée aux conditions polaires hostiles, limite pour l'instant les possibilités d'exploitation. Les Groenlandais espèrent toutefois qu'ils parviendront à trouver les partenaires nécessaires pour extraire leurs minerais et ainsi financer leur indépendance du Danemark. « Nous voulons exploiter nos ressources minières pour devenir plus indépendants économiquement du Danemark », résume au Devoir Nahaja Nathanielsen, ministre des Affaires du Commerce, des Ressources minières, de la Justice et de l'Égalité des genres du Groenland, rencontré au Parlement de Nuuk, la capitale. Le Danemark envoie chaque année une subvention équivalent à 800 millions de dollars canadiens dans l'île. Un soutien financier dont le mouvement indépendantiste au pouvoir au Groenland veut s'affranchir. Mais nous avons besoin d'investisseurs étrangers dans le secteur minier pour y parvenir. Actuellement, une seule mine exploitant de l'anorthosite, utilisée dans la fabrication de la fibre de verre, est en exploitation au Groenland, et une mine d'or redémarre ses activités. Pour obtenir un revenu plus stable pour notre économie, il nous faudrait de 2 à 5 mines en activité, détaille la ministre. Mais développer une mine prend en moyenne 16 ans, ajoute-t-elle, et pendant cette période, il n'y a que des dépenses et des dépenses. En ce moment, on a un manque d'investisseurs acceptant de mettre autant d'argent sur une longue période sans gain assuré. Engouement. En répétant que les États-Unis veulent acheter le Groenland, Trump pourrait avoir créé un engouement inédit. Au cours des 2 premiers mois de l'année, 25 demandes pour obtenir un permis d'exploration minière ont été déposées auprès du gouvernement groenlandais. C'est exceptionnel. C'est le nombre que nous avons généralement en une année, affirme Jorgen T. Ameken Holm, sous-ministre des Ressources naturelles du Groenland. L'attention médiatique générée a vraiment mis le Groenland sur la carte, pointe à son tour Thomas Tiet Mogensen, directeur général de Nalik Ventures, un organisme financé par le gouvernement groenlandais pour stimuler le développement économique, dont l'activité minière. Si nous jouons bien nos cartes, je pense que nous avons l'occasion de développer notre potentiel minier d'une manière qui n'aurait pas été possible sinon, dit-il. Le sous-sol du Groenland recèle de nombreux minéraux critiques convoités pour la transition énergétique et pour l'industrie militaire, dont du graphite, du lithium et du cuivre, et surtout, le sud de l'île abriterait l'une des plus grandes réserves mondiales de terres rares. En ce moment, environ 85 permis d'exploration minière sont en circulation, octroyés en majeure partie à des minières canadiennes, britanniques et australiennes. Contrairement à ce que Trump laisse entendre avec ses visées expansionnistes, les États-Unis sont peu présents pour scruter le sous-sol du Groenland. Une seule minière américaine est active dans l'île et aucune minière chinoise n'est présente. Si les Américains veulent des minéraux, ils sont les bienvenus. On va les accueillir favorablement, lance Jorgen T. Ameken Holm en répétant que plus d'exploration doit être menée au Groenland pour bien comprendre son potentiel minier. Fermeture de mines. Jusqu'à présent, les minières ont souvent interrompu leurs activités durant la phase d'exploration, avant même de se lancer dans l'exploitation, en raison des coûts faramineux et des doutes quant à la rentabilisation de leurs investissements. L'exploration prend beaucoup de temps et souvent il y a une phase où le prix du minerai baisse et le besoin n'est plus aussi urgent sur le marché mondial, explique Thomas Warming, géophysicien rencontré dans son bureau à l'Institut des ressources naturelles du Groenland à Nuuk. Les coûts sont aussi plus élevés qu'ailleurs en raison du manque d'infrastructures, aucune route ne relie les villages au Groenland, et de l'impossibilité, par endroit, de mener des activités 12 mois par année en raison des conditions polaires. En fonction de l'endroit où le gisement sera trouvé, qui peut être très éloigné de tout, il faudra bâtir un port, construire une route jusqu'à la mine, prévoir des logements, faire venir de l'électricité ou de l'énergie, illustre M. Warming. Tout ça coûte beaucoup d'argent avant même de commencer à exploiter la mine. Le réchauffement climatique fait espérer à certains que l'exploitation du sous-sol du territoire, recouvert à 80% de glace, sera facilitée. Mais d'autres enjeux surviendront, prévient le géophysicien affilié à la Commission écologique du Danemark et du Groenland. La rupture des glaces va créer plus d'icebergs dans les fjords, ce qui va rendre l'expédition par navire plus difficile, et davantage d'épisodes de pluie sont à prévoir. Un défi pour les mines à ciel ouvert. Moratoire sur l'uranium et les énergies fossiles. Une loi adoptée en 2021 par le gouvernement groenlandais interdit l'extraction d'uranium pour des raisons à la fois environnementales et éthiques. Ce moratoire a forcé l'arrêt des activités au gisement de terres rares de Kevanefjeld qui contient le minerai controversé. Mais une autre importante réserve de terres rares située à proximité, à Kringlern, au sud de l'île, pourrait être exploitée. Les coûts seraient toutefois faramineux et l'impact écologique dévastateur. C'est un processus très compliqué pour séparer les minerais des terres rares, qui nécessitent beaucoup d'énergie et beaucoup de produits chimiques, mentionne Thomas Warming. C'est un cauchemar pour l'environnement. Chaque gisement de terres rares nécessite un processus d'extraction taillé sur mesure complète, Thomas Tite Mogensen. Généralement, le processus d'exploitation d'un minerai est le même, peu importe où se trouve la mine. Mais pour des terres rares, ça dépend de la composition de chaque gisement, et donc ça nécessite un processus d'extraction particulier et une installation de traitement différente. Un domaine où les Chinois détiennent un quasi-monopole. En 2021 également, le gouvernement a adopté un autre moratoire, cette fois sur l'exploitation des énergies fossiles. Nous avons une nature immaculée, une industrie de la pêche, un secteur touristique. Les risques liés à l'extraction du pétrole et du gaz ne sont pas compatibles avec ça, fait valoir la ministre Nathanielsen. Cette décision était aussi pragmatique puisqu'elle a été prise dans la foulée du retrait de toutes les pétrolières qui faisaient de l'exploration au Groenland. Aucun investisseur ne voulait être associé à l'extraction de pétrole dans l'Arctique. C'est mauvais pour leur image, signale la ministre. Et les gisements espérés n'ont pas été trouvés. Plusieurs croient que la récente charge menée par Trump a pour but de s'assurer que d'autres restrictions à l'exploitation des ressources naturelles au Groenland ne soient pas adoptées. Mais il ne faut pas voir dans ce modèle une particularité liée à la culture inuite, croit Nadja Nathanielsen, qui évoque plutôt des choix rationnels. « Nous avons survécu ici en utilisant la nature », reconnaît-elle. Et nous voulons la préserver pour les générations futures. Mais nous ne sommes pas, pour autant, gênés d'utiliser ce qui se trouve ici, les ressources naturelles, pour devenir plus forts et plus durables. Nous sommes très pragmatiques. C'était « Les ressources minières du Groenland sont convoitées, mais difficiles à exploiter », un texte de Magdalene Boutros, paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir.
voir le VIH en trois dimensions. Une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 28 février 2025 dans le magazine Fugue. Le 24 octobre dernier, VIIV Soins de Santé Canada a organisé le premier sommet communautaire national sur les soins du VIH, incluant la prévention, le traitement et les déterminants sociaux associés à la santé. L'événement, qui s'inspire d'un sommet similaire qui a lieu aux États-Unis depuis 26 ans, a réuni à Toronto les leaders communautaires de tout le pays pour une journée complète afin d'échanger sur le statut de la maladie et les façons de l'aborder plus efficacement. Parmi les intervenants présents, on comptait le docteur Bertrand Leboucher, clinicien, chercheur et professeur agréé en médecine à l'Université McGill. Au moment où le Canada est l'un des seuls pays où les cas de VIH sont en hausse, le médecin de famille revient sur l'événement communautaire et sa pertinence dans la lutte à l'épidémie. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle actuel au sein de l'Université McGill? Tout à fait. Je suis médecin de famille spécialisé notamment en soins du VIH, de l'hépatite C et des ITSS. Comme chercheur, je passe la moitié de mon temps à travailler avec des personnes atteintes du VIH et mon équipe de recherche pour trouver de nouvelles façons de traiter le virus. Nous utilisons des approches avant-gardistes telles que des chatbots, des applications mobiles, etc., de manière à ce que les patients jouent un rôle actif dans leur suivi. L'idée est qu'ils aient accès aux bonnes informations en temps réel pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions à propos de leur situation. On pourrait avoir l'impression qu'en 2025, la lutte au VIH est un dossier réglé, mais ce n'est pas le cas. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'état de la situation dans vos propres mots? Malheureusement, l'épidémie de VIH est relativement contrôlée au niveau mondial, sauf au Canada et plus précisément au Québec. Par exemple, nous avons eu en 2022-2023 une augmentation de 35 % des nouveaux cas au Canada et de 40 % au Québec. Cette hausse s'explique en partie par l'accueil au Canada, notamment au Québec, d'un grand nombre de personnes qui viennent de pays où la prévalence du virus est importante. Cette clientèle représente environ 90 % des nouveaux cas traités par mon équipe. À l'opposé, quand on s'intéresse précisément aux populations plus à risque, mais qui sont nées ici, dont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, nous avons plutôt constaté une baisse de 56 % des cas de VIH, ce qui démontre l'efficacité des traitements préventifs disponibles aujourd'hui et l'importance de donner accès à ces solutions aux nouveaux arrivants. Des traitements comme la PrEP? Exactement. Si on donne accès à ces traitements aux personnes qui arrivent de l'étranger, elles pourront plus facilement aller mieux, s'intégrer, aller travailler, etc. Depuis quelques mois, la PrEP est disponible par injection tous les 2 mois et elle le sera prochainement tous les 6 mois. Même chose pour les antirétroviraux qui peuvent aussi se donner en un comprimé par jour et même par injection tous les 2 mois et à celles et ceux qui vivent avec le VIH. Donc, la situation est en amélioration constante. L'un des enjeux qui ne s'améliore pas, c'est la stigmatisation, d'où l'importance des groupes d'aide et organismes de soutien communautaire. Vous avez justement participé cet automne au premier sommet communautaire national sur les soins du VIH organisé par VIIV Soins de Santé Canada. Pourquoi ce genre de rassemblement communautaire est-il important? Le VIH est aujourd'hui une maladie chronique. Il y a donc une expertise communautaire en lien avec le soutien des gens qui vivent avec la maladie. Je crois qu'il faut mélanger toutes les approches pour continuer à faire toujours mieux. C'est en entendant le point de vue des groupes communautaires et des personnes qui vivent avec le VIH au quotidien sur le terrain qu'on va réussir à le contrôler. Quelle est la différence entre cet événement et les congrès scientifiques traditionnels? Dans les congrès, on invite des chercheurs comme moi à venir parler d'un sujet, Mais dans ce cas-ci, c'était intéressant parce que c'était un sommet par et pour la communauté. Ce format amène totalement une autre expertise, prouvant l'importance des savoirs partagés. Qu'il s'agisse du vieillissement, de la comorbidité, etc., nous avons tous abordé la même réalité, mais avec des angles différents, chacun regardant l'enjeu du VIH avec sa propre lunette. Ça donnait l'impression de regarder le problème comme un prisme en trois dimensions. J'ai beaucoup aimé et grandement appris. Les discussions se tenaient en mode talk show. Quels ont été les moments forts à vos yeux? Je dois dire que j'ai été particulièrement charmé par le panel auquel j'ai été invité, qui s'intitulait « Naviguer avec le VIH, de la jeunesse jusqu'au vieillissement, avec dignité et avec soin ». La notion de navigation est super intéressante pour moi parce que la seule chose que je demande à mes patients est que leur VIH soit stable, c'est-à-dire qu'il soit indétectable et qu'il le reste. En revanche, la vie n'est pas stable. Comment peut-on donc faire pour garder une forme de stabilité et pour continuer à naviguer, même quand la mer est parfois agitée? Ce sont des questions bien réelles que nous avons pu aborder lors de cette discussion. L'événement a donc été une réussite? Absolument, ça a été très intéressant d'entendre les approches de tous. Je lève mon chapeau à tous les participants, notamment Mulumba Abanyama de l'Ontario AIDS Network, qui est intervenu à plusieurs reprises, toujours de façon très intéressante durant l'activité. Elle a, entre autres, rappelé aux participants l'importance de se remémorer les personnes absentes de la salle, c'est-à-dire celles vivantes avec le VIH ou décédées des suites du virus. Cela a permis d'approfondir la discussion en mettant en lumière les voix souvent négligées. En terminant, avez-vous un conseil ou un message d'espoir pour les gens atteints du virus ou pour leurs proches? Je pense qu'il est important de rappeler que le VIH n'est plus une maladie grave si on se fait tester, soigner et qu'on utilise les traitements pour le contrôler. Le pire choix est de faire l'autruche. Donc, il faut sans attendre se faire tester et se faire traiter, ou, encore mieux, utiliser les moyens pour prévenir sa transmission. En cas de besoin de soutien, il faut aller voir les groupes communautaires. Ils ont une grande expertise et peuvent vous aider et vous faire beaucoup apprendre. C'était « Voir le VIH en trois dimensions », une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 28 février 2025 dans le magazine Fugue.